vue d'ensemble de l'actualité.
La priorité des priorités, c'est l'équipement médical. Surtout l'équipement pour faire des tests.
Drainville PM.
Alors, François Legault, un peu plus tôt aujourd'hui, je m'en vais rejoindre sans plus tarder Alain Vadeboncœur, chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Bernard.
J'ai beaucoup de questions pour toi. D'abord, cet article que j'ai vu dans The Gazette, à l'effet qu'à peu près la moitié des Montréalais qui ont testé positif au coronavirus avaient moins de 50 ans. Est-ce que tu es surpris de ça, toi?
Bien, sur la propagation, non. On sait que la maladie est moins sévère, moins grave. Il y a moins de conséquences chez les plus jeunes. Mais on sait aussi que tout le monde peut l'attraper et la transmettre. Il y a de fortes chances que les gens qui ont moins de symptômes se retrouvent dans les groupes les plus jeunes. Mais pour ce qui est de la transmission, non, c'est pas extrêmement surprenant là, qu'il l'ait.
Très bien. Deuxième chose, le coronavirus qui affecterait l'odorat et le goût. Est-ce que c'est démontré, ça? Parce que il y a quelques jours de ça, c'était davantage une hypothèse. Est-ce que là, on est pas mal certain que chez certaines personnes, ça a bel et bien cet effet?
Oui, bien, en fait, c'est des nouvelles qui ont circulé très, très récemment, dans les dernières 48 heures. Il semble y avoir des relevés, si on veut, de symptômes pour lesquels là, il y a peut-être 20-30% des patients qui auraient une altération, effectivement, soit de l'odorat ou du goût. Moi, personnellement, je pense ça un peu avec un grain de sel, surtout ce qui c'est pas un symptôme très, si on veut, très fatigant. C'est un peu subjectif comme symptôme. Hein, je sens un peu moins bien ou des choses comme ça. Mais bon, c'est possible que ça soit associé. Les mécanismes sont certainement pas encore clairs, là, mais ça a été relevé par plusieurs personnes, je dirais, mais je pourrais pas dire que c'est validé à fond scientifiquement.
Très bien. La nouvelle de Isabelle Paré dans Le Devoir, qui a fait l'objet de plusieurs questions par la suite lors du point de presse de François Legault, à l'effet que des urgentologues comme toi, Alain Vadeboncœur, se plaignent de manquer d'équipement, de ne pas avoir de masque, de ne pas avoir la protection adéquate pour s'occuper des patients qui se présentent avec des symptômes et qui, dans certains cas, sont infectés par la COVID-19 dans des hôpitaux. Qu'est-ce que tu entends, toi, à l'interne? Là? Je ne parle pas juste de l'Institut, je parle dans la confrérie des urgentologues.
Mais en fait, d'abord, je m'en suis pas plaint personnellement, directement. Là. J'ai soulevé la question comme étant un des gros défis, c'est de s'assurer que tout le monde soit bien protégé. Ce qui a été soulevé hier par Dr. Gilbert Boucher, qui est en fait le président des spécialistes en médecine d'urgence, c'est que, surtout à Montréal, en fait, le mode de transmission apparaît modifié, c'est-à-dire que là, on n'est plus vraiment en face de situation. On dit, bon, mais vous avez voyagé, vous êtes à risque, etc. Et d'ailleurs, ça vient de changer aujourd'hui. Il y a à peine 2-3 heures, la santé publique, dans le fond, en tout cas celle de Montréal, nous a envoyé une directive comme quoi maintenant, on allait considérer davantage les symptômes que la question des voyages ou des facteurs de risque comme ça.
Okay.
Donc, on considère que quelqu'un qui a des signes d'infection, ben, il devrait y avoir un niveau de protection plus élevé. Fait que c'est un petit peu ça qui était soulevé. C'est pas tant actuellement le manque de matériel, c'est bien qu'on a des craintes pour une pénurie, c'est beaucoup plus devant qui on se protège. Ce que Dr. Boucher mentionnait, c'est que dans certains cas, il y avait un manque de coopération de certains hôpitaux pour fournir le matériel.
Donc, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que jusqu'à maintenant, quelqu'un qui se présentait à l'hôpital, on l'envoyait, mettons, dans la file COVID-19 s'il venait de l'étranger et s'il avait des symptômes comme de la fièvre. Là, on l'envoyait dans la file et là, il était vu par des médecins qui étaient bien protégés contre le virus. Et là, ce que des urgentologues ont dit, c'est que dans certains cas, les personnes se présentent à l'hôpital. Dans les faits, elles sont déjà infectées par la COVID-19, mais elles ne sont pas vues par des urgentologues qui sont bien protégés.
Mais en fait, comme je te dis, c'est en train de changer. Hein. Donc, c'est très difficile parce que c'est vraiment une cible mouvante, cette histoire-là. Et donc, ce qui était vrai il y a 2 semaines, que la transmission était essentiellement, disons, on pouvait l'identifier à des voyages ou des cas particuliers, la santé publique, aujourd'hui même, annoncé qu'il y avait de la transmission communautaire à Montréal. On parle de plus de 300 cas. Ce qui veut dire que, dans le fond, c'est que ça se promène, qu'on ne peut pas tracer de voyage ou de contact nécessairement. Et donc, ça doit être un peu... Ça demande de rehausser le niveau de défense, parce que, dans le fond, ça veut dire que n'importe qui a un syndrome de type grippal, ça pourrait être un COVID. C'est un peu ça qui est mentionné. Ça correspond tout à fait, en fait, cette émission-là, à cette directive-là, à ce qui était un peu demandé, c'est-à-dire, bon, mais est-ce qu'on peut accepter qu'effectivement, les critères sont plus larges pour qu'on se protège davantage? Ça, c'est le point le plus important. Mais comme c'est tout frais sorti, il faut d'abord l'interpréter puis s'assurer qu'on fait les bonnes choses.
Donc, dorénavant, dès que tu te présentes à l'urgence avec un symptôme grippal, tu vas être vu, dans le fond, par du personnel de la santé qui va être complètement protégé. Comme ils vont prendre, d'une certaine manière, ils vont se comporter comme si tu l'avais, la COVID-19. Ils vont se protéger à cet effet.
Absolument. Donc, fièvre, toux, dyspnée, donc difficulté à respirer, mal de gorge. D'abord, mettre un masque au patient, ce qui est la première chose, et ensuite se protéger comme si c'était jusqu'à ce qu'on sache. Donc, ça, c'est comme je te dis, c'est en transition parce qu'un des problèmes, c'est que tous les deux jours, un peu, ça, on change un peu d'orientation et c'est très difficile dans un hôpital de mobiliser puis de changer les choses, mais c'est ça qui devrait être fait certainement, en tout cas, dans les prochains 24-48 ans.
Bon, tu en as parlé, la transmission communautaire est bel et bien confirmée, bel et bien commencée.
Au moins à Montréal, hein, j'ai pas de notion. Ça vient de la direction de la santé publique de Normand, de Montréal, il faut quand même le mentionner.
D'accord. Là, il y a un guide auto-soin qui a été publié par la ministre de la Santé. Et dans le fond, là, c'est le guide des instructions qu'on doit suivre si on est infecté.
Bien, ça veut dire que ça explique, c'est vraiment un guide explicatif. J'ai regardé hier, là. Ça explique un peu de A à Z ce qu'est la maladie. Et surtout, c'est très concret. Là. Qu'est-ce que vous faites si vous sentez tel genre de symptômes? Évidemment, ça parle des symptômes. Ça veut dire quoi, l'isolement, si on veut, comment on s'isole? Évidemment, ça dit, vous pouvez appeler tel numéro, il pourrait arriver ça, cela. Autrement dit, c'est un guide très, très pratique autour de simplement de faire comprendre aux gens ce que c'est et quoi faire dans différentes situations. Pour expliquer, pour rassurer aussi. Il était assez bien fait. En tout cas, je l'ai regardé vite hier, puis il y avait pas mal d'informations utiles là-dessus. C'est sur le site du ministère. C'est utile peut-être de mettre le lien, d'ailleurs, pour que les gens puissent y accéder facilement.
Oui, on va le donner à la fin de l'entrevue. Je dois te dire que je l'ai feuilleté, effectivement, puis tu as raison de dire que c'est très, très, très concret. En fait, je trouve que c'est bien vulgarisé. Tu sais, quand ils disent, par exemple, les facteurs de propagation, on peut attraper la COVID-19 lorsque nos yeux, notre nez, notre bouche sont en contact avec les gouttelettes d'une personne infectée qui tousse ou qui éternue. Bon. Lorsque nos mains touchent un objet ou une surface qui est contaminée, qu'on les porte ensuite à notre visage. Il nous rappelle, les symptômes se développent en moyenne de 5 à 7 jours après la contamination, mais ça peut prendre jusqu'à 12 jours.
Oui. D'où le 14 jours, d'ailleurs, d'isolement, hein, qui donne une marge de sécurité par rapport à ça. Mais dans ce que tu mentionnes, vraiment, le plus important, c'est le mécanisme, hein, c'est des gouttelettes. Donc, ces gouttelettes-là se retrouvent sur les objets. Et donc, c'est nos mains qui sont les vecteurs. Par contre, nos mains ne peuvent pas attraper la maladie. Hein. Notre peau est étanche. Là. Oui. Et donc, il faut vraiment porter nos mains à nos muqueuses, c'est-à-dire à notre visage, pour se le transmettre. Donc, ça avait toujours l'air un peu drôle, ce message-là. Touchez-vous pas la face. Moi, je commence à être pas pire. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on va se le donner de nous-mêmes. Parce que nos mains elles-mêmes, là, si on les lave, on ne peut pas attraper le COVID, ou enfin, on peut attraper très, très peu de maladies comme ça, d'ailleurs. La peau nous protège très, très bien. C'est vraiment le visage, la cible. Mais le visage est la cible des mains. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
Oui, et par ailleurs, les principaux symptômes annonciateurs de l'infection sont fréquents. La toux, la fièvre et la fatigue extrême et grave, les symptômes graves, annonciateurs que vous êtes infecté, ça, c'est une personne sur 6, c'est la difficulté à respirer et la pneumonie.
Oui, ben en fait, on sait que la complication majeure, il y en a d'autres, là, du COVID, de la COVID, c'est vraiment la pneumonite. En fait, c'est une inflammation du poumon. Et donc, cette inflammation-là qui va entraîner une difficulté à respirer. Fait que, si vous avez des symptômes grippaux, mais que la respiration est de plus en plus difficile, au sens où quand vous marchez, ben vous êtes essoufflé, puis là, vous avez l'impression d'avoir le souffle très, très court. Là, ça commence probablement à aller pas très bien. Et c'est certainement le moment où on devrait consulter, donc, la respiration. Mais les autres symptômes, on les voit. Le grand défi, c'est que des fois, c'est des symptômes qui ont... Tu sais, il y a peu de symptômes d'infection, surtout chez les personnes âgées. Hein, juste, hein, par exemple, de la fatigue extrême, difficulté à se mobiliser. Ça peut être des fois un signe annonciateur chez surtout les extrêmes d'âge, mais donc les personnes âgées en particulier, qui ont une infection sous-jacente. Donc, des fois, c'est pas si facile que ça à l'identifier.
Ce qui est bien important, en tout cas, c'est que si vous pensez que vous l'avez, ne vous précipitez pas à l'urgence, à l'hôpital. Les instructions dans ce petit guide d'auto-soin, c'est vous demeurez à domicile, vous vous éloignez de toute personne humaine, vous lavez les mains, vous appliquez l'hygiène respiratoire, donc tu couvres ta bouche, ton nez, tu tousses dans ton coude, et tu appelles le 1-877-644-4545, et là, tu leur expliques ce qui se passe, et là, ils vont te donner un rendez-vous ou t'envoyer dans une clinique qui est comme celle dans le quartier des spectacles, n'est-ce pas?
Absolument. Donc, si c'est indiqué, parce que on s'entend bien que quelqu'un qui a des symptômes légers comme ça, ça va passer probablement comme n'importe quel virus. Donc, c'est surtout la gravité des symptômes. On est mieux de se renseigner et ils vont encadrer à ce moment-là ce que vous devez faire. Mais effectivement, si on a des symptômes légers, ça n'en a absolument rien de venir à l'urgence. On ne fera rien de plus. Il faut vraiment suivre nos symptômes. Moi, je dirais que l'urgence, c'est vraiment réservé pour des gens qui ont peut-être des symptômes d'infection, mais aussi des problèmes sévères comme grandes difficultés respiratoires associées, des choses comme ça.
Et si vous avez une grande difficulté respiratoire, là, vous pouvez appeler le 911, demander évidemment à l'ambulance, mais préciser à la personne qui va prendre l'appel, je pense que j'ai la COVID-19 pour donner le temps aux ambulanciers de revêtir l'équipement là, nécessaire pour se protéger, là.
Oui, ça, c'est essentiel. Hein? On a parlé, puis j'en ai parlé, puis j'en reparle encore, c'est que il faut dire aux gens qui sont dans le système de santé, les infirmières, les médecins que vous allez voir, les paramédics, tout le monde, en fait, que vous allez rencontrer, qu'est-ce que vous avez comme symptômes. N'essayez pas de dissimuler vos symptômes. Tout le monde perd là-dedans. Là. À la fois vous, parce qu'on va moins bien s'occuper de vous, à la fois les soignants, et on sait, j'en ai eu un cas ici, là, une personne qui savait qu'elle avait eu un contact avec une COVID, qui ne l'a pas dit, ben ça a entraîné des contacts avec 3 infirmières, 2 préposées, une résidente, qui sont toutes en quarantaine actuellement, donc à risque de l'être, simplement parce que l'information avait été, pas été mentionnée, les questions avaient été posées par l'infirmière, parce que c'est ça, nous autres, on les pose les questions quand les gens arrivent, là. Et donc, faites pas ça, ça donne rien, puis c'est à la limite, ça pourrait rendre du monde malade et même en tuer certains, là. Donc c'est sûrement pas une bonne idée.
Dernière, Alain, parce que je dois vous laisser. Quelqu'un me dit, si j'ai une blessure à la main, je tousse dans ma main, est-ce que je peux attraper le virus de cette manière-là?
Écoute, c'est une bonne question, j'ai pas la réponse précise. Je serais un peu surpris que ce soit un gros facteur de risque, mais si ça arrivait, je recommanderais simplement de passer ça à grande eau puis de laver ça avec un peu de savon.
Très bien, Alain Vadeboncœur, chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardio de Montréal, chroniqueur également à la revue L'Actualité. Merci, Alain.
Grand plaisir.
Tu as l'air un peu fatigué. Fais attention à toi, mon vieux, OK? J'ai quelques auditeurs qui me disent « Protégez-vous, faites attention à vous, docteur Vadeboncœur. »
Merci.
OK, c'est bon. Ouais. Après la pause, le chroniqueur économique Pierre Couture va être avec nous parce qu'on se rend compte que vous êtes encore très nombreux à avoir des questions par rapport à l'aide qu'on est supposé recevoir des gouvernements. On va prendre quelques minutes là pour revisiter ces questions-là. Puis si vous avez des questions là, sur l'aide que vous attendez, là, à propos de laquelle vous commencez peut-être à être un petit peu nerveux, avec raison, on comprend, là. Vous pourrez vous manifester, nous appeler 790-9850 ou encore par texto 98985, Drainville à commercial 985fm.ca.